Radio Chablais, 23h. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Les délits de faciès sont encore très courants et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, plus précisément en Californie, dans un quartier où un monsieur s'est fait entourer par la police d'un coup. Il promenait simplement son bébé. Son problème à lui, c'est qu'il est artiste, donc il a un petit chignon sur la tête, une un peu petite barbe de quelques jours quand même, voire quelques semaines, et qu'effectivement, il ressemble pas du tout à un banquier. Du coup, quand il promenait son bébé, sa voisine a été persuadée que c'était un SDF qui enlevait le dit bébé. Donc la police est intervenue d'un coup, alors en plus à l'américaine, avec de très nombreuses patrouilles pour entourer et pointer le monsieur avec un pistolet, qui a dû se défendre et expliquer que non, il était juste artiste. Alors il est vrai, habillé un peu débraillé peut-être, mais pas du tout SDF, et simplement fatigué de s'occuper du nouveau-né. Ben oui, on a toutes et tous connu ça. Il est pas rancunier quand même, hein, puisqu'il n'en a pas voulu à sa voisine, et il a au contraire remercié d'avoir été attentive à ce qu'il se passait dans son quartier. Il part en cunier quand même. Hein.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Radio Chablais, programme de nuit.
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Dimanche dernier, à l'occasion de sa traditionnelle fête des fraises, la commune de Plougastel d'Aoulas dans le Finistère a explosé un record assez impressionnant, le record du monde de la plus grande tarte aux fraises. Déjà, ça donne faim. Mais un record franchement assez impressionnant, puisque pour cette gourmandise, il y avait 49,49 mètres carrés la taille du gâteau, 750 kilos de fraises et 300 kilos de crème fraîche. Hop là, on réveille légèrement son insuline et le diabète vient de repartir. Tout ça a été donc nécessaire pour battre ce record, mais un record qui ne sera pas inscrit au Guinness Book. Vous savez, le fameux Guinness Book. Pourquoi ? Parce que le maire de la commune de Plougastel, d'Aoulas, ça dit, c'est pas possible, il nous demande 20 000 euros pour faire homologuer ce record dans le Guinness Book. Et effectivement, je peux comprendre que ça pique un petit peu, c'est pas une chose qu'on sait nécessairement. Et 20 000 euros, il disait lui, bah, pour ma commune de Plougastel, c'est le montant que j'ai besoin pour faire fonctionner certaines de mes écoles à certains moments de l'année et pouvoir créer des animations et développer un petit peu des choses. Donc il a dit, bah, le Guinness Book, c'est pour nous terminer. Et il s'est associé à la brasserie Corée. Pourquoi ? Parce que ben, Guinness, c'est de la bière, c'est une brasserie à la base. C'est historique, c'était une manière pour Guinness de se faire connaître à l'époque. Et Corée, c'est une bière bretonne à l'opposé. Et le patron de la Corée a dit, ben, moi je te demande juste de me payer l'huissier et on va créer notre propre bouquin juste pour contrer un petit peu la chose. À mon avis, ils n'ont pas un énorme avenir dans la création de leur Corée Book des records, parce que Guinness a quand même un sacré pouvoir, on va dire, financier et de communication s'il faut, mais l'idée est intéressante. Peut-être aussi elle signifie une première rébellion contre le Guinness Book des records. Je dis une première, on avait déjà eu quelques-unes, mais en tout cas on reconnaîtra toujours aux Bretons cet énorme besoin et ces énormes velléités d'indépendance. Est-ce que ça rappellerait pas un petit village gaulois qui se situe justement dans le Finistère, à la base dans le bouquin ?
Est-ce bien sérieux ?
As-tu vu, je suis là ?
Sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud.
Sur le grill.
Le Giron des musiques du District d'Aigle, c'est ce week-end du côté de Lézin, avec un très très riche programme. On va vous donner encore plus envie d'y aller. On va en parler ce matin avec Christelle Giobellina, Afonso Giobellina. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la fanfare de Lézin.
Oui.
Alors déjà précisé, parce que moi je dis tout le temps fanfare de Lézin, mais il y a un petit nom quand même derrière.
C'est quand même la fanfare La Rose des Alpes.
La Rose des Alpes, ça fait joli et ça fait poétique. C'est quoi un petit peu l'histoire d'ailleurs de cette fanfare? Alors, on va parler dans tout les détails techniques, peut-être, mais elle existe depuis quand ?
Alors, elle existe depuis 129 ans aujourd'hui.
129 ans ?
Ouais.
Aujourd'hui ?
Aujourd'hui.
Joyeux anniversaire !
Merci.
Oh, on va mettre une petite bougie sur les croissants que vous avez amenés. 120 ans, c'est énorme quand même pour une fanfare.
C'est énorme, ouais.
C'est une des plus vieilles de la région, vous pensez, ou bien ?
Non, je pense pas.
Non, pas tout à fait.
Je ne sais pas les autres dates, mais je ne pense pas.
Je pense
qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas une des plus jeunes.
Combien ça, j'imagine aussi. C'est à peu près, on n'est pas obligé de chiffres précis, mais combien de membres?
Une trentaine de membres.
Ouais. Une école de musique aussi.
Une école de musique propre à nous-mêmes.
Okay.
Donc, on a notre directeur qui forme les élèves.
Donc ça veut dire que si on a envie de faire apprendre la musique assez plus jeune, parce que bon, pour moi c'est un peu trop tard, mais on peut faire partie
de... C'est jamais trop tard.
Moi je sais faire du triangle, et encore c'est pas tout le temps en rythme.
Moi c'est pas si simple le triangle.
Bon alors, le Giron donc, c'est ce week-end. Ça, s'il y a bien un grand Raoult, c'est le Giron, c'est le moment de l'année. C'est pas facile à organiser, je sais de quoi je parle. C'est un tournus qui se fait dans les différents ensembles musicaux de la région. Vous, est-ce que vous savez la combienième fois que vous l'organisez, vous le savez?
Troisième fois.
Ah, déjà quand même.
Mais la dernière fois, c'était en 2007.
En 2007.
Si je ne me trompe pas d'année.
On parle avec donc ce tournus, un riche programme, et on l'a dit, un concert de Eugdi Driton le samedi à 20h. Toutes les infos, alors on trouve entre autres sur alvaudoise.ch, aussi sur le site.
Sur le site de la fanfare aussi.
Qui est
larosedesalpesimoncite.com.
Bon alors, ce Giron, c'est un peu comment que ça se passe? C'est quoi le programme?
Alors le programme, on va commencer le samedi avec au Collège du Suchet pour le concours des solistes qui va démarrer à 10h.
Okay.
Au centre sportif à 17h, tous les stands ouvriront au centre sportif du Créteil-Jacquet à 17h, suivi du concert des fameux Eugdi Driton et d'un concert des Back to 80s pour bien finir la soirée.
Ouais, pour revivre les années 80 en musique, gros programme. Faut quand même se souvenir que la journée, alors vous l'avez dit, il y a le concours des solistes, et que le dimanche ensuite, c'est le passage des sociétés. Alors devant le jury, ça c'est pas nécessairement le moment le plus passionnant pour le public. Par contre, ensuite, il y a 11h30 le cortège des sociétés. Il faut vraiment le rappeler, c'est des super, super moments. Il y a des grosses ambiances en Giron. Il y a les fanfares qui jouent, qui prennent différents morceaux d'ensemble, et il y a toujours une très 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 belle ambiance.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il faut venir découvrir ça.
Le cortège aussi, le village sera décoré, les vitrines seront décorées aussi, donc ce sera super joli au cortège.
C'est une vraie célébration quand même.
Ouais, c'est un moment à nous, mais il faut venir le découvrir.
On fait une petite pause musicale, mais on rappelle qu'il reste des billets pour Eugdi Driton, alvaudoise.ch ou rosesalpesimoncite.com également. Il reste quelques places pour le spectacle, mais là, il faut aller vite aussi, hein, parce que Eugdi Driton, on le sait aussi, on l'avait vu l'année passée avec, ça s'est rempli, mais super vite sur la fin, quoi.
Oui,
c'est ce qui risque de se passer.
Ça se remplit assez vite, ouais.
Ah, Mélanie Eugdi. C'est
chaud, sur le grill.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud. Sur le grill.
Christelle Afonso Giobellina, toujours avec nous ce matin, présidente de la Rose des Alpes de Lézin pour le 65e Giron des musiques du district d'Aigle. Et surtout, aujourd'hui, hein, tout à coup, on se le dit ça comme ça par hasard, mais c'est les 129 ans aujourd'hui de la fanfare, la Rose des Alpes. Très riche programme, on vous l'a dit, hein, avec des concours de solistes, avec différents défilés, tout ce week-end du côté de Lézin, le concert de Eugdi Driton ainsi qu'un concert de Back to the 80s pour une soirée revival années 80. Et puis se souvenir aussi qu'il y a encore quelques places de bénévoles, histoire de vivre l'événement de l'intérieur. C'est bien ça, Christelle?
C'est ça. Il y aura toujours de la place, de toute façon. Même à la dernière minute, on aura du travail.
Il y aura toujours du job.
Mais c'est aussi pour venir vivre cet événement. Ça peut être une très belle expérience.
De l'intérieur, effectivement, c'est toujours intéressant. Samedi donc, et dimanche, avec aussi plein de stands. Et vraiment, au niveau restauration, au niveau ambiance, au niveau bar, tout ce qu'il faut aussi pour s'éclater un petit peu. Quoi. C'est un peu le but, quoi.
Ouais, c'est ça.
Venir passer un très très bon moment ce samedi et ce dimanche à Lézin, que ce soit entre le centre sportif de Créteil-Jacquet ou le collège du Suchet, les concours des solistes, le cortège des sociétés depuis la place du marché avec la destination Lézin, le village qui sera décoré. Tout ce qu'il faut, franchement, un joli week-end bien traditionnel. La météo s'annonce sympa, donc on va s'éclater, quoi.
Je parle pas de météo, je préfère pas.
Faut croiser les doigts et toucher du bois. 65e Giron des musiques du district d'Aigle et les 129 ans de la Rose des Alpes, fanfare, Rose des Alpes, imoncite.com. Tout ce qu'il faut, on trouve aussi sur les réseaux sociaux d'ailleurs, tout ce qu'il faut, tous les liens.
Ouais, Instagram, Facebook, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à la billetterie, aux informations nécessaires.
La Rose des Alpes. Bon anniversaire.
Merci.
Et puis bon giro.
Merci beaucoup.
Ciao, bon week-end.
Bon week-end.
Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Le top du top sur Radio Chablais.
Pierre qui me rejoint au studio ce matin et comme tous les mercredis à la même heure pour nous parler du top du top. Bonjour Pierre.
Bonjour, mais tout d'abord un petit clin d'œil dans les journaux, puisque ce 11 juin 1981, on découvre que le socialiste Walter Buser, jusqu'ici vice-chancelier, est élu chancelier de la Confédération par l'Assemblée nationale. Au terme de 4 tours de scrutin, il recueille 124 voix contre 104 qui sont allées au candidat des démocrates chrétiens Joseph Voyan. Décrit comme puissant et modeste, efficace et discret, Walter Buser succédera le 1er juillet suivant à Karl Huber et restera chancelier jusqu'au 30 juin 91, donc une décennie à ce poste.
Belle performance.
Voilà, exactement. Le titre musical qui cartonne au sommet du hit parade ce 11 juin 81 est interprété par Herbert Léonard pour le plaisir.
Ah oui, forcément.
Oui. Né à Strasbourg, l'artiste quitte l'école à 16 ans pour apprendre à jouer de la guitare. Il monte le groupe de rock Les Jets avec ses amis, en référence à West Side Story. Il a 22 ans lorsque son premier disque sort. Herbert Léonard connaît très peu de succès durant les années 70. Il retombe même dans l'anonymat et devient journaliste spécialisé dans Aviation Magazine. Mais en 1980, Vlin Bugy découvre un jeune compositeur de talent, Julien Lepers, que les téléspectateurs suivront ensuite durant près de 30 ans dans Question pour un champion sur France 3. Elle contacte également Herbert Léonard, persuadée d'une alchimie entre eux. S'ajoute Arlette Tabert, responsable de la programmation musicale sur Europe 1 et également parolière. Et le titre de la chanson vient justement d'une émission de France Inter intitulée, enfin justement, c'était Europe 1 avec Arlette Tabert, là c'est le titre d'une chanson qui vient d'une émission de France Inter intitulée justement Pour le plaisir. Mais comme aucune maison de disques ne croit en ce morceau, Vlin Bugy décide de le produire elle-même en confiant la distribution à Polydor. Le 45 tours se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et devient le tube de l'été 81. Herbert Léonard signe ainsi son retour triomphal dans le monde de la chanson. On l'écoute.
Sans en attendre rien, mais pour le regarder une fille dans la rue et se dire qu'elle est belle, sans même aller plus loin, mais pour le plaisir, en passant simplement lui sourire.
pour le plaisir, interprété par Herbert Léonard, est au top du top des ventes de singles en France pendant 6 semaines, du 29 mai au 9 juillet 1981. À la suite de ce succès, Herbert Léonard enregistrera la chanson en allemand, en espagnol et en italien. Il y aura ensuite Amoureux fou avec Julie Pietri, un des tubes de l'été 83, et Puissance et gloire, le générique de la série télévisée Château-Vallon, entre autres succès pour cet artiste.
Ouais, alors j'ai l'impression qu'on se souvient presque plus d'ailleurs de la chanson que de la série.
La série en elle-même, hein, oui. L'artiste avait fêté ses 80 ans le 25 février dernier, mais nous a quittés 5 jours après, le 2 mars. Voilà pour cette carrière d'Herbert Léonard.
Et il nous laisse pour le plaisir. Merci
exactement,
beaucoup.
Exactement, belle journée.
C'était le top du top sur Radio Chablais.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Il est question de crème solaire ce matin et Mélanie, je suis tombé sur des chiffres qui font un petit peu peur par rapport à ces crèmes solaires parce que on a la fâcheuse habitude d'en mettre juste avant d'aller dans l'eau, dans la mer surtout. Et même si les crèmes solaires sont mentionnées résistent à l'eau, ça fait des dégâts et beaucoup de dégâts parce que quand on se met dans l'eau directement après avoir mis sa crème solaire, on en perd des litres et des litres et même des tonnes. Chaque année, nous déversons environ 25 000 tonnes de crème solaire dans les océans, soit 1 litre par seconde. Et ça fait beaucoup de mal à l'océan parce que avec les vents, les courants, la crème solaire finit par arriver dans les récifs coralliens et certains des composants chimiques de ces crèmes solaires détruisent les micro-algues qui nourrissent les coraux. Ceux-ci se mettent alors à se décolorer et finissent par mourir. Et ça, tu penses que ça se fait en combien de temps?
De base, j'aurais dit ça prend du temps, mais non, ça
48 heures.
Ah ouais, quand même.
Tu te rends compte?
Punaise.
Et donc ça fait vachement du mal à nos océans, à nos mers. Et il faut aussi faire attention parce que pas seulement à ces micro-algues et à cette végétation, mais aussi aux poissons.
Aux poissons, ouais.
Et oui, parce qu'il y a aussi des microplastiques qui peuvent se déverser dans la mer. Et donc ça peut mal se passer.
Ça veut dire que dans les crèmes solaires, il y a des microplastiques?
Oui. Ou il n'y en a pas, super. En fait.
Oui.
Alors, il existe aussi des labels qui s'appellent Ocean Protect ou Ocean Friendly. Mm-hmm. Elles sont plus saines pour la mer, ça c'est vrai, mais ça reste quand même polluant. Alors, vous allez me dire, comment on fait alors?
Ben oui, parce qu'il faut se protéger quand même.
On doit se protéger, ça c'est vrai. Alors, ce qui est conseillé, c'est de limiter de mettre de la crème solaire, mais de conserver des habits, c'est-à-dire un t-shirt. Ou quelque chose qui couvre la peau.
Donc, on va se baigner dans la mer avec un t-shirt.
Yes. Ou un bout de tissu, de préférence sombre, car cela filtre mieux les UV qu'une crème. Alors, déjà,
c'est super ça pour le bronzage.
Bah ouais, mais...
On est au taquet, là.
Si vous voulez penser aux océans, mettez un t-shirt noir, et puis comme ça, vous crèverez de chaud. Parce que le noir, ça attire... Moi, j'ai toujours cru que le noir... Ça attirait le soleil et qu'il fallait faire attention. Bon, c'est clair, quand on est habillé tout en noir, en plein soleil, on sent qu'on a quand même plus chaud.
Quand on est habillé en plein soleil, on a plus chaud de toute façon, hein, j'ai envie de te dire.
Et donc, il faudrait mettre quelque chose sur ses épaules. Vous pouvez le mettre quand vous vous baignez parce que les UV peuvent pénétrer jusqu'à 60 cm dans l'eau. C'est pas parce qu'on se dit, je vais me baigner, j'ai pas besoin de mettre. Je garde t-shirt uniquement à l'extérieur. Et quand je vais me baigner, j'enlève le t-shirt. Attention, jusqu'à 60 cm, les UV peuvent pénétrer. Donc, vous pouvez avoir des coups de soleil. Et puis, ça peut pas faire du bien à la peau.
Non, de toute façon. Mais est-ce que si on met la crème solaire, genre, longtemps avant de rentrer dans l'eau,
voilà,
ça marche?
C'est ce que j'allais dire. Si vous voulez absolument vous baigner. Soit à torse nu, soit avec un haut de maillot, soit bref, si vous voulez pas mettre de t-shirt, vous devez mettre au minimum 30 minutes avant de vouloir aller à la mer la crème solaire pour pouvoir laisser autant du temps à la peau pour assimiler cette crème solaire. Et puis comme ça, il y en aura moins dans les océans et elle sera plus dans la peau. C'était simplement parce que je vois beaucoup de gens qui sortent de leur chambre d'hôtel et puis qui se disent, tiens, maintenant qu'on est sur la mer, à la mer, sur la plage plutôt, je vais mettre pas crème solaire, et puis hop, on va faire un plongeon, parce qu'on se la met bien sûr toujours en plein soleil, après on crève de chaud, on se dit, tiens, je vais à la mer, essayez d'abord, moi je le fais comme ça toujours, de mettre la crème avant même que je sorte. Je prends ma douche, mais je crois que tu fais la même chose. Hein.
Mais moi, je fais la même chose.
Je mets ma crème solaire pour hydrater la peau déjà en sortant de la douche.
Bah oui, parce que moi, je ne pensais pas que c'était aussi détrimental.
Moi non plus, mais c'est hier, en préparant le sujet, je suis tombé sur cet article parce qu'en fait, il est revenu un petit peu à la une. C'est actuellement le sommet mondial pour les océans à Nice. Mm-hmm. Et voilà, il y a un gros phénomène qui ne fait pas du bien aux océans, c'est la crème solaire. Et c'est là aussi où j'ai appris plein de choses que j'ai voulu vous partager aujourd'hui.
Non, mais c'est bien, tu fais bien. Mais moi, je trouve que c'est quand tu mets la crème solaire quand t'es déjà sur la plage, ben c'est chiant parce que t'as l'impression de faire une séance d'exfoliation avec le sable qui est sous la crème. Et c'est pas
alors
hyper
après,
agréable.
Donc, j'en connais des gens qui disent, tiens, je vais mettre la crème solaire sur la plage, comme ça, c'est peut-être un bon moyen de rentrer en contact avec d'autres personnes. Ah, vous avez besoin que je vous mette de la crème solaire dans le dos? Pas de problème. Hop, et puis on fait des contacts comme ça. Ah oui, ça existe. Mais il y a plein de choses qui se passent dans le monde, hein, Mélanie. Mais moi, ce qui m'énerve le plus. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que tu mettes ta crème solaire et puis il suffit que tu mettes la main dans le sable, t'en as plein. Non, mais c'est un chenil, pas possible.
Mais c'est pour ça, moi, je préfère mettre ça avant de sortir.
Après, on peut se laver les mains éventuellement.
Oui, aussi. Non, mais surtout, il ne faut pas penser que le soleil va venir attaquer votre peau uniquement quand vous êtes sur la plage.
Ah bah ouais.
Donc, si vous sortez de chez vous, vous êtes en short, en jupe, en
juste la flemme.
Ouais,
j'ai envie d'aller sur la plage, j'ai pas envie de perdre plus de temps dans cette chambre. Hop. Je mettrai ma crème solaire sur la plage, qui ne l'a pas fait.
Oui, mais il faut penser à notre nous du futur, donc voilà. On se protège.
Ouais, nous du futur, moi, c'est-à-dire deux minutes après, si je dois mettre ma crème solaire sur la plage, je risque déjà d'en mettre dans les yeux. Je suis de main gauche. D'avoir du sable plein les mains, puis après j'ai des lunettes de soleil qui sont toutes grasses.
Ah oui,
donc, au moins,
aussi.
Quand je le fais ma chambre, je peux et nettoyer mes mains, et nettoyer mes lunettes, et puis ressortir, et j'ai pas de problème d'avoir mis de la crème solaire dans les yeux, ça me fait pleurer. Sinon...
Ah ben voilà, tu vois comme quoi, en fait, ton côté maladroit, ça a protégé pas mal les océans.
Les océans peuvent me dire merci.
En tout cas, merci.
Mais pensez à ça pour ces prochaines vacances.
Ouais.
Mettez de la crème 30 minutes avant ou alors t-shirt sombre.
Il faut aller les chercher Ocean Friendly.
Ouais, exactement.
Océan Friendly, donc.
Ocean Friendly.
C'est marqué sur la boîte.
Exactement.
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces infos qui nous seront grandement utiles.
Ça t'a laissé bouche bée quand même, je t'ai vu, tu faisais des gros yeux. C'est fou ça.
C'est fou.
Bon, pensez
à
tout ça.
De se dire à quel point on peut impacter en fait la faune et la flore des océans.
Faire très attention, et puis ça, tout ça en 48 heures, donc c'est assez immédiat si on ne fait pas très attention. Donc on y pense et on vous souhaite d'ores et déjà de
retrouver vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Ça plaît.
Speak English.
With Mélanie.
Oh my God.
Where is Brian? Brian is in the kitchen.
Et l'expression
quoi,
anglaise du jour, j'allais dire, c'est to lose your touch. Donc,
ça, c'est quand tu t'énerves avec ton clavier, tu le lances et puis après, t'as perdu une touche.
On sent l'expérience là quand même.
Ça m'est déjà arrivé, effectivement.
Non, alors pour le coup, littéralement traduit, se dire perdre ton toucher. To lose your touch.
Ok.
D'après toi, ça veut dire quoi?
T'as plus de feeling en fait. T'as... Non?
Pas totalement. En fait, quand tu lose your touch, c'est qu'en fait, t'es plus capable de faire quelque chose aussi bien ou aussi efficacement qu'avant.
Ok.
Par exemple, imagine. Ouais,
par exemple, le jeu des mots.
Non, je l'ai déjà utilisé l'autre fois.
Alors, c'est quoi
exemple.
D'autre?
Non, imaginons que dans ta jeunesse, t'étais super fort au beach volley.
Ouais.
Ok.
Il faut bien que tu imagines, parce que alors, ça n'est jamais arrivé.
Non, mais écoute, moi, je te donne des exemples fictifs, tu vois.
Bien sûr.
Et donc, tous les étés, tu faisais plutôt du beach volley avec tous tes potes et tu étais quasi imbattable.
Bien
C'est
sûr.
Toi qui mettais tous les buts, etc.
Ouais.
Bref. Donc, imaginons que cet été, tu rencontres tes potes et puis vous décidez de replonger en nostalgie, clin d'œil, et vous décidez de faire une partie de beach volley.
Mm-hmm.
Puis il se trouve que, en fait, t'es plus aussi bon qu'avant. Et en fait, tu finis par perdre misérablement la partie. Tes potes vont te dire, Axel, you have lost your touch. En gros, t'es plus aussi bon qu'avant.
Ouais. T'es mauvais.
T'as perdu du niveau.
Ouais. que t'es nul. On ne te veut plus dans mon équipe.
Alors, j'ai essayé de trouver d'où venait cette expression. Puis, bon, c'était un peu flou. Tout ce que j'ai pu tirer comme information, c'était que cette expression, elle vient de Grande-Bretagne du 19e siècle, pour être un peu plus précis. Et il semblerait que le mot « touch » soit dérivé du sens tactile du mot. En fait, ça signifiait une manière délicate et raffinée de manier les choses. Touch a ensuite évolué pour désigner un talent, une dextérité ou une compétence particulière. Attention à ne pas confondre avec l'expression to lose touch.
Bien sûr, j'allais le dire.
Tu sais, des fois, je sais même pas si tu ris ou si t'es sarcastique. Mais bon, to lose touch, ça veut dire perdre contact avec quelqu'un ou quelque chose.
Ah, okay.
Par exemple, si tu dis to lose touch with reality, ça veut dire que bah, t'es plus connecté à la réalité.
Ou alors si t'as perdu contact avec tes amis,
exactement.
Tu les as plus revus depuis des années.
To lose touch with somebody, voilà, c'est ça.
D'accord.
Donc, to lose your touch, qui est l'expression du jour, c'est le your qui fait vraiment toute la différence. To lose your touch, ça veut dire que bah, voilà, t'es plus capable de faire quelque chose aussi bien qu'avant. Est-ce que tu sais c'est quoi le pendant de cette expression en français?
Alors je recherche, mais à part t'es mauvais, je vois pas.
Alors écoute,
en
français, on ne perd pas son toucher, on perd plutôt la main.
Ah ouais, t'as perdu la main, effectivement. Ouais. Bien joué. Pour une fois qu'elle trouve une expression en français, en général, elle essaie toujours de trouver chez moi la solution. Ben là, non.
Oui, parce qu'il y a des fois où c'est compliqué, il n'y a pas d'expression.
Moi,
puis
je vois aussi, ben, tu as perdu la main en cuisine, tu faisais une recette superbement bien. Tout à coup, tu dis, tiens, je vais la retenter après quelques temps. Ben, tu t'es loupé, ah, matin, tu as perdu la main,
voilà.
on peut le dire.
C'est
okay.
Ça, exact.
Bon, ben, hey, super. To lose
ça.
Your touch, et non pas to lose touch.
Exactement.
Parce que ça veut dire perdre contact avec la réalité ou avec des amis, par exemple.
Exactement.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais, l'heure pour moi de vous présenter un coup de cœur musical. Mélanie, est-ce que tu connais Feu Chatterton?
Non, je dois avouer que ça ne me dit rien.
Eh bien, sache qu'ils ont déjà sorti 3 albums, ce groupe français. Le premier, c'était il y a 10 ans, et le dernier, c'était en 2021. Et c'est grâce à cet album que moi, j'ai connu Feu Chatterton, et notamment grâce à ce son. Extrait de leur 3e et avant-dernier album, faut-il le dire maintenant, Palette d'Argile, qui a été quand même certifié disque de platine parce qu'il a été vendu à plus de 100 000 ventes.
Génial.
C'est incroyable ça.
Ouais.
Et donc, ils reviennent avec un 4e album dans les mois à venir et pour nous faire patienter d'ici là, un nouveau single qui s'appelle « Allons voir ». Et si on allait plutôt l'écouter, ce titre, et on
avec
en parle dans un...
Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais, l'heure pour nous de découvrir cette fameuse forêt gourmande dont Mélanie nous a donné quelques mots tout à l'heure. Et surtout, moi, je vois marquer là sur notre petite feuille que c'est le supermarché de la nature. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Mais oui, alors écoute, j'ai vu passer cette info sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit que c'était une chouette histoire à partager. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Fabrice Desjours. Et Fabrice Desjours, en fait, lui, c'est un ancien infirmier psychiatrique, mais qui était passionné de botanique.
D'accord.
Et il a fait plusieurs voyages autour du monde. Et il s'est dit, en vrai, les forêts là-bas, elles sont incroyables. Pourquoi est-ce que je rapatrierais pas tout ça en France? Parce que Fabrice Desjours est français. Et en fait, quand il allait en Indonésie, il a rencontré des fermiers qui cultivaient donc pas des champs, mais des forêts, enfin la forêt elle-même. Et en fait, ça, c'est une pratique. Je le savais pas, j'ai découvert en m'intéressant à son histoire. J'ai découvert qu'en France, il faisait justement ce genre de choses. Il cultivait la forêt.
Lui-même? Ou alors d'autres personnes?
C'est-à-dire, ils sont plusieurs.
Ah, ok.
Alors, je ne sais pas si c'était des fermiers en tant que tels qui cultivaient la forêt, mais voilà, c'était une forêt qu'on cultivait et pas des champs.
Ok.
Et donc, lui, il a voulu faire pareil. Il a ramené énormément de différentes graines exotiques qu'il a voulu faire planter dans sa forêt. Donc, il est rentré Donc, c'est un village qui s'appelle Dicon, qui est en Saône-et-Loire. Et il a acheté, c'est quoi, 2,5 hectares de parcelles, et il l'a transformé en forêt nourricière. Donc ça veut dire que dans cette forêt, il y a presque tout qui est comestible. Alors évidemment, il a dû planter des arbres du style des bouleaux, des chênes, des saules, tout ça, pour protéger en fait les jeunes boutures, hein, comme on appelle, pour pouvoir les faire en sorte que ça fructifie. Oh, c'est un joli mot ça, parce que bon, il y a pas que des fruits. Il y a tout, il y a de tout. Il y a des fruits, des légumes, des fleurs aussi, des fleurs alimentaires. Alors, je ne savais pas que les marguerites, ça se mangeait, hein, mais apparemment, voilà, ça se mange. Il y a des champignons, il y a différentes graines, il y a des noix, il y a des épices aussi, il y a des produits de la ruche. Donc il y a vraiment, il y a de tout. Et il a fait grandir cette forêt. Et ce que je ne savais pas en regardant le petit reportage sur les réseaux, c'est que ça lui a pris 15 ans pour mettre tout ça en place.
Bah oui, c'est vrai que dit comme ça, on dit waouh, ça a pris du temps, mais quand tu viens avec des petites graines, faut laisser les arbres grandir quand même, ça prend du temps tout ça.
Bah oui.
Qu'après ils puissent donner des fruits, etc.
C'est ça, parce que bon, bah, sur sa parcelle de terre, il n'y avait pas d'arbres. C'était vraiment
il
genre.
Il a pris une parcelle de terre, il a planté de la forêt.
C'est ça. Il a créé une forêt.
Ouais, mais tu vois, les bouleaux et tout ça, parce que si j'ai bien compris, il a planté des bouleaux et ce genre d'arbres pour protéger les espèces exotiques qu'il a fait venir.
C'est ça.
Notamment, c'est ça qu'il parce a qu'après, planté. Les bouleaux et tout ça, ça donne des fruits aussi. Les noisetiers, non, des,
ouais,
tu m'as dit quoi
les
d'autre
chênes, les saules. Ouais, ouais.
Ça amène du gland, là, les chênes.
Bah oui. Non, mais en fait, c'est ça. Il a essayé de faire en sorte que ce soit ce qu'il appelle un jardin-forêt.
Donc en fait, on peut passer dans ce jardin maintenant, puis on peut se servir, et puis après on pèse son panier en sortant, puis on paye Fabrice.
Ben en fait, oui, c'était un peu le concept. Alors évidemment, tu peux pas juste venir prendre ton panier, puis voilà. Il y a quand même des horaires d'ouverture,
ouais, comme dans
etc.
les magasins, ouais.
Et puis il a un peu ouvert le champ des possibles avec, ben justement, il y a des gens qui viennent pour faire un peu leur cueillette. Il y a des restaurateurs, il y a des maraîchers, il y a des scientifiques, il y a des enseignants aussi qui viennent. Il y a des
avec
stages qui sont. Je crois qu'il y a des classes qui viennent.
Ouais,
il y a des stages qui sont aussi mis en place pour pouvoir faire découvrir tout ça. Puis surtout, ça a un but aussi écologique parce que grâce à son jardin-forêt, il favorise la biodiversité et la décontamination des sols pollués.
Mm-hmm.
Et il a tellement bien masterisé un peu tout ça, toutes ces techniques, que on lui demande maintenant de venir revégétaliser certains sites ou bien créer une forêt comestible dans d'autres parcs. Donc il a réussi à
C'est mon métier maintenant,
exporter
en fait.
Son ouais bah c'est ça. Il est plus infirmier maintenant.
Ah,
il
ouais.
a plus le temps.
Je pense que il doit s'éclater à faire parce que c'est quelque chose qu'on fait par passion.
Bah oui c'est
Et
ça.
Et quand on peut vivre de sa passion. On en est des bons exemples ici. C'est génial.
Exactement. Et donc cette forêt là, donc qui date d'il y a 15 ans, c'est le plus ancien jardin-forêt qui a été ouvert au public. C'est aussi celui qui a été décrit comme le plus riche biologiquement et structurellement. Il y a plus de 1000 espèces alimentaires. C'est un espèce de garde-manger perpétuel, en fait.
1000 espèces, c'est énorme. On n'en fait pas le tour en une journée, là.
Non, et le truc qui est assez fou, c'est que ça a besoin de très peu d'entretien.
Même pour les plantes quand tu m'as dit que ça venait des plantes exotiques, je me suis dit, est-ce que ça peut pousser? Est-ce que ça peut tenir en France? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis d'acclimatation, etc.? Ça a l'air de bien se dérouler.
Il a mis en place ce qu'on appelle... c'est une sorte en fait de permaculture où en fait ils plantent des espèces qui s'aident à pousser les unes les autres quoi.
Okay.
Donc c'est pour ça qu'il y a quasiment tout qui est comestible, mais pas tout parce que il a quand même fallu des plantes pour protéger les autres.
Exact.
Donc si vous avez envie, mais franchement j'ai trouvé trop cool quoi parce que c'est aussi
joli.
Ça aide à justement tous ces dérèglements climatiques, ça aide à ça. C'est un climatiseur. climatiseur permanent, ça se dit ça. Ça apporte de l'air frais.
Bah oui, les arbres, bien sûr.
À 2,5 hectares, il y a de quoi se rafraîchir un peu.
Et si on veut y passer peut-être en vacances, là, si on veut faire un détour dans ce coin-là cet été, on peut y aller.
À Dicône, dans la Saône-et-Loire, et ben oui, cette forêt, ça s'appelle la forêt gourmande, et puis ils ont un site internet où il y a plein d'infos dessus. C'est www.forêtgourmande.fr.
Merci beaucoup. Ça m'a donné faim, ça.
J'avoue.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Voici les titres du journal.
La ligne ferroviaire Aigle-Lézin souffle cette année ses 125 bougies. Retour sur une longue page d'histoire qui continue de s'écrire. On y reviendra avec l'actuel directeur des transports publics du Chablais, Grégoire Prat. Et les élèves du cycle de Montet courront en faveur de l'association ELA lundi prochain. Organisée par des élèves de 11e année, cette course fait partie d'un projet de classe réalisé durant l'année scolaire.
Pour la météo, du soleil aujourd'hui et demain, des températures très estivales. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journeau. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. C'était il y a plus d'un siècle, le 5 novembre 1900. Les deux communes d'Aigle et Lézin étaient reliées par des chemins de fer. À l'époque, le développement du train en Suisse romande via la ligne du Simplon a permis la naissance de nombreuses voies ferrées montagneuses dans la région chablaisienne. Un développement qui a contribué au fil des décennies à l'essor touristique de la station des Alpes vaudoises, comme l'explique le directeur actuel des transports publics du Chablais, Grégoire Prat.
Oui, on le voit sur plusieurs phases. Hein. On a vraiment commencé avec ces centres médicaux qui étaient à Lézin, ces malades qui venaient, avec vraiment une fréquentation très importante. Bien sûr, après, avec toute l'avenue des médicaments et de ces nouveaux éléments, un peu les cures ont perdu de leur importance et on s'est plus tourné vers le tourisme. Et là, Lézin a réussi ce tournant-là et s'est vraiment dirigé vers le tourisme, en particulier le tourisme d'hiver. Et puis, avec vraiment des touristes maintenant qui viennent en train directement à la station.
Et pour atteindre une telle longévité, la ligne Aigle-Lézin n'a cessé de se moderniser. Des étapes clés que nous détaille Grégoire Prat.
Oui, à chaque période, on a des modernisations qui arrivent. Vous avez parlé de la double voie, mais c'est surtout le viaduc qui est un emblème pour cette ligne, qui était un emblème pour Lézin aussi, et qui a vraiment une image très forte. Le matériel roulant, les rames de 1946 roulent encore. Donc on a vraiment encore une compagnie où on arrive à avoir ces rames anciennes. Bien sûr, avec des projets d'amélioration et de modernisation de la flotte qui doit arriver ces prochaines années.
Et la modernisation de la ligne Aigle-Lézin va se poursuivre 125 ans plus tard, vous l'avez entendu. Un projet d'ampleur intitulé Lézin 365 est en cours de réalisation. Validé par la Confédération à l'automne dernier, il devrait prochainement être mis à l'enquête, incluant une prolongation de la ligne d'1,2 km jusqu'aux remontées mécaniques, mais aussi la construction d'un funiculaire pour accéder au haut de la station. Un sujet signé Ludovic Turin.
Plus de 530 élèves du cycle d'orientation du Repos-Yeux à Montet vont courir pour la bonne cause lundi prochain.
Mise sur pied par la classe 11 CO1, cette course caritative en faveur de l'association ELA a pour but de mettre en lumière une maladie génétique qui touche le système nerveux central, appelée leucodystrophie. Tout élève qui s'élancera sur ces 6 km de parcours a dû trouver des parrains qui feront un don à ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies. La course partira et arrivera à la zone sportive du Vernet et emmènera les enfants sur les bords du Rhône. Léo, 14 ans, élève de la classe 11 CO1, souligne la motivation de ses camarades et ce que lui a apporté cette organisation.
Oui, ils sont tous motivés. On a tous trouvé quelque chose à faire, les affiches, le parcours et tout. On a tous fait quelque chose, donc il y a des gens qui ont contacté la commune pour faire le parcours, du coup la radio, surtout Radio Chablais. J'ai appris à mieux écrire des mails encore, du coup, parce que j'écris pas mal de mails.
Un sujet préparé par Guillaume Abbé. Le conseil de la magistrature du canton du Valais a désigné son président. Il s'agit de Basile Couchepin, avocat à Martigny. La vice-présidence sera assurée par Thierry Schneider, juge au tribunal cantonal. Ludivine Détienne présidera la commission disciplinaire, Aude Rapin la commission administrative et Romain Jean la commission des élections. Les CFF ont déposé une plainte à la suite des manifestations de lundi soir en gare de Lausanne et Genève, indique aujourd'hui un porte-parole confirmant à Keystone ATS une information du temps. Aucun détail n'est toutefois donné sur cette plainte, les CFF ne souhaitant pas donner davantage d'écho à de telles manifestations. Ils rappellent en revanche le grand danger à s'aventurer sur les rails comme l'ont fait les militants pro-palestiniens, en raison notamment des lignes de contact et de la distance de freinage des trains. Les paiements compensatoires aux cantons dits pauvres vont encore augmenter l'an prochain, atteignant 6,4 milliards de francs. Genève devient le plus gros contributeur selon les chiffres de l'Administration fédérale des finances publiés aujourd'hui. Un duel singulier va se tenir vendredi à Thun. Le plus grand syndicat du personnel des douanes et des gardes-frontières, fort de 2500 membres, doit élire son nouveau président. Face à face, deux parlementaires fédéraux valaisans, le socialiste et syndicaliste Emmanuel Amos et l'avocat UDC Jean-Luc Ador. Leurs profils et leur style sont à l'opposé. Emmanuel Amos entend poursuivre sur la voie de ses prédécesseurs à la tête du syndicat Garanto, Christian Levrat ou Siravis. Il décrit ses atouts.
Avant tout, une expérience. Je suis engagé syndicalement depuis plusieurs années au niveau du SSP Valais. Donc il y a une certaine expérience. Le syndicalisme ne s'improvise pas. Et il y a aussi une réelle dynamique au niveau de la commission dans laquelle je siège. Je suis à la commission de l'économie qui traite pratiquement tous les sujets centraux des douanes dans notre pays. Un syndicat doit défendre le personnel. Un syndicat ne doit pas faire de la politique activement. Moi, je souhaite utiliser la politique pour défendre le syndicat. On doit défendre les travailleurs et les travailleurs, où qu'ils soient gardes frontières, qu'ils soient employés dans les bureaux, il s'agit de défendre leurs intérêts. Vous savez, Madame Karine Keller-Souter a mis en place un plan d'économie majeur qui va impacter violemment le personnel, et c'est avant tout ce personnel qu'il va falloir s'engager à défendre.
Et l'UDC Jean-Luc Ador est l'autre candidat à la présidence du syndicat des douanes Garanto, un profil tout autre, inédit, pour diriger un syndicat affilié à l'Union syndicale suisse. Est-ce que c'est le loup dans la bergerie ? La réponse de Jean-Luc Ador.
Non, je pense que ma candidature, qui est perçue par certains, il ne faut pas se le cacher, comme une bizarrerie, voire un risque, ben moi je la vois comme une opportunité, comme une chance d'essayer d'élargir la base parlementaire des personnels de l'OFDF. Il n'y a guère que la gauche, hélas, qui trop souvent défend leurs intérêts, on va dire strictement syndicaux. Les douaniers ne sont pas n'importe quel travailleur, ce sont des gens qui, comme moi et comme mon parti, croient à l'utilité des frontières, que ce soit pour notre sécurité, pour le contrôle des personnes, mais aussi des frontières un peu plus immatérielles pour prélever des droits de douane. Je crois que c'est quand même assez en droite ligne d'une partie de mon engagement politique de toutes mes années au Parlement fédéral.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. L'élection du nouveau président du syndicat du personnel des douanes et des gardes-frontières se tiendra vendredi à Thun. Une bombe artisanale non fonctionnelle a été retrouvée au domicile du jeune Autrichien de 21 ans qui a tué par balle 10 personnes hier dans son ancien établissement scolaire de Graz en Autriche, a indiqué la police aujourd'hui sur X. Cette bombe a été saisie lors d'une perquisition chez le tireur, a-t-elle précisé. L'enquête se poursuit pour déterminer les motivations du jeune homme qui s'est suicidé dans les toilettes après son crime. La Corée du Sud a annoncé avoir cessé de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord dans les zones frontalières. Son nouveau président s'est engagé à tenter de rétablir la confiance entre les deux pays ennemis. Et puis un mot de hockey pour terminer. Le Canadien Geoff Ward se plaît à Lausanne. Il a prolongé son contrat d'entraîneur du LHC jusqu'au terme de la saison 2027-2028, a indiqué le club. Club qui est vice-champion de Suisse 2024 et 2025. Le technicien, ancien assistant des Boston Bruins en NHL durant 7 saisons et arrivé à Malais en novembre 2022, a su transmettre son expérience à l'ensemble du groupe, ainsi que sa philosophie de jeu et sa rigueur tactique.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Cyrielle Format, bonjour. Bonjour.
Vous êtes chanteuse, autrice, compositrice, interprète de votre musique, connue désormais sur la scène romande, sur la scène suisse, sur la scène internationale. J'ai vu la France dans vos tournées récentes. On va parler de votre carrière, de votre démarche, de votre projet Maïmouna, et puis aussi d'un petit coup de gueule que j'ai vu sur les réseaux sociaux. On en parlera tout à l'heure. C'est ce qui m'a donné l'idée de venir vous voir maintenant. On est chez vous, à Sion, dans un studio. Il y a des guitares au mur, il y a des claviers un peu partout. Il y a un vieil harmonium magnifique.
Oui.
Vous jouez ?
Oui, un petit peu. Je sais, je suis pas une très grande claviériste, mais c'est plein d'instruments qui me sont très utiles quand je fais des arrangements pour moi ou pour d'autres artistes. Et donc, c'est toujours utile d'avoir plein de textures sonores différentes.
Bon, vous m'avez dit, chez moi, ça a du sens, parce que cette émission, c'est un rendez-vous. Mm-hmm. Voilà, c'est une pièce tout à fait normale. Hein. C'est pas un studio capitonné, c'est là que ça se passe.
Ouais, c'est une pièce aussi avec beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres, ce qui n'est pas toujours le cas dans les studios d'ailleurs. C'est vraiment chez moi, c'est ce qu'on appelle un petit home studio, mais ça faisait du sens parce que c'est là que je travaille, que je compose, que j'accueille du monde, que j'enregistre, et puis c'est un endroit où je me sens très bien. Il y a plein d'images aussi au mur, il y a mon chat qui vient de temps en temps, mais peut-être pas aujourd'hui avec Cello qui fait le guet, mais non, j'adore cet endroit, je m'y sens bien.
Bon, la musique est acoustique chez vous. Il y a beaucoup de, j'ai écouté quelques interviews, beaucoup de sens que vous mettez dans le fait que l'instrument est organique, qu'il est réel, que c'est pas de l'électronique. Mais ce qui trône devant moi, c'est un gros ordinateur. On peut plus faire sans.
Ah, c'est difficile aujourd'hui de faire sans. Ouais. Ouais. Mais moi, je suis très reconnaissante aussi de ça. Je me dis souvent que si j'étais née 20 ans plus tôt, ça aurait été très compliqué pour moi de faire de la musique. Mais c'est vrai qu'avec un ordinateur aujourd'hui et des programmes gratuits et hyper faciles d'accès, on peut tout faire à la maison. Et donc moi j'ai vraiment commencé comme ça, seule avec mon ordinateur, une petite carte son, et puis après j'ai appris vraiment à m'entourer, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très important pour moi de mettre l'organique au centre et l'humain aussi au centre, d'accueillir plein de monde sur le disque que j'ai sorti il y a 5 mois maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'instruments différents et beaucoup de musiciennes et musiciens qui sont venus, et l'ordinateur c'est juste un outil, mais c'est pas central dans ma démarche.
Alors justement, moi j'ai vu dans la présentation de votre carrière sur votre site internet, donc c'est de la source première, quelque chose de guidé par des décisions un peu radicales, hein. J'arrête mes études, je veux faire de la musique, j'arrête la musique classique parce que, comme souvent, ça a commencé par la musique classique, je veux mon propre univers, je quitte les groupes pour la solitude, et puis j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retour à, comme vous venez de le dire, j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de plus faire toute seule.
Ouais, oui, je pense qu'on a besoin de se prouver des choses, hein. Et puis j'avais besoin d'essayer, de comprendre ces outils, d'essayer de les maîtriser au maximum. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai tout fait toute seule, de la composition, l'écriture, jusqu'au mixage. Et puis à un moment où, quand je réécoute ces titres où j'ai tout maîtrisé, j'ai un peu une forme d'écœurement. ça dégouline.
Il y a trop de moi là-dedans.
Voilà, ouais. Et puis, je pense que j'ai eu besoin de ça, et j'essaie d'avoir de l'amour pour la personne que j'étais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai besoin d'être aussi poussée sur des chemins que j'aurais pas pris seule. Et du coup, voilà, j'ai de plus en plus envie de prendre d'autres chemins et puis d'être bousculé, quoi.
Bon, c'est pas mal d'avoir fait l'expérience de la solitude pour retourner au commun.
Absolument.
Et en percevoir les richesses.
C'est vrai. Oui, c'est nécessaire, je pense.
Bon, vous êtes né dans une famille musicienne. On connaît sur cette antenne et en Suisse romande désormais votre sœur, hein, qui a aussi une carrière de chanteuse, plutôt humoriste aujourd'hui, également.
Ouais.
La musique a joué un rôle très tôt, hein. Ça, l'une comme l'autre, vous le rappelez dans vos interviews. La famille musicienne, c'est presque la chanson de traînée, je sais pas si vous la connaissez,
ah,
la
oui,
famille
oui.
musicienne.
Ouais, oui, c'est un peu ça. Ben, c'est vrai qu'on a eu une chance immense d'être né dans une famille d'artistes, et en tout cas pour qui la musique, mais l'art sous toutes ses formes, a toujours eu une place importante. Et puis moi, j'ai eu la chance, quand j'ai décidé de faire de la musique mon métier, on m'a jamais dit « mais non, tu vas pas pouvoir en vivre, c'est pas un vrai métier », ça j'ai jamais entendu de la part de mes parents. Et donc c'est une chance immense. On a toujours été même encouragés à nous exprimer sous différentes formes, à dessiner, à écrire et à chanter.
Vous relevez que c'est parfois l'ennui, la solitude hein, qui a favorisé ça. Quand vous étiez toute petite, il a fallu utiliser l'art, la mélodie, la chanson dans sa tête pour s'occuper.
Oui, ça c'est salvateur, hein, je crois, l'ennui. C'est un truc qui me fait peur aujourd'hui. J'ai l'impression que les gens savent plus s'ennuyer avec ces téléphones qu'on a à portée de main. Mais c'est vrai, quand on a grandi à Orcières, qui était à l'époque encore un tout petit village. Et puis,
retiré du monde.
Ouais. Bon, pas tant que ça, mais c'est l'impression qu'on avait quand on était gamine. Et puis on était toujours dehors. Et puis on a aussi grandi dans un contexte assez religieux. Donc on était aussi souvent à la messe. Et puis je dois avouer qu'on s'ennuyait un peu. On ne comprenait pas tout ce qui se passait dans ces sermons. Donc on cherchait des échappatoires. Et puis on s'inventait des histoires, quoi.
La musique, c'est papa, maman. Pour toute la fratrie qui dit bon bah il faut faire de la musique, parce qu'il y a un moment où quelqu'un doit vous dire voilà tu vas aller faire de la musique quoi, ou c'est venu de vous, comment ça s'est passé?
Non, c'était imposé.
Ouais, c'est ça.
Je pense pour mes parents c'était quelque chose qui était très important.
Bon, faut dire qu'Orcières à l'époque c'était encore le 19e siècle.
Oh, non. Non, mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose de dater, d'exiger de ses enfants qu'ils fassent un peu de musique. Moi, je trouve ça plutôt sain.
Non, je
ne
pense pas.
Non, je ne crois pas non plus.
Et... encore,
ouais.
Cette habitude-là, pour moi, le moment magique, qui est un moment que je regrette personnellement, parce que vous êtes reconnaissante à vos parents d'une certaine rigueur. Moi, je leur en veux pas, mon Dieu, les pauvres. Mais voilà, moi, ils m'ont pas obligé. Donc, j'ai fait du piano et puis j'ai arrêté à 14 ans comme un jeune ado stupide. Et je le regrette aujourd'hui.
Bon, c'était pas des tyrans non plus. Mes parents, ils nous ont pas forcés. Ils nous ont suggéré de choisir un instrument et de commencer. Et on est quatre.
Il faut que j'enlève la question sur les punitions corporelles. Attendez.
Donc il y a ma sœur Format dans la fratrie, mais j'ai aussi deux grands frères qui eux ont pas accroché à l'étude d'un instrument via le conservatoire, et mes parents les ont pas
renié.
Voilà, on dit bah, c'est ok, tu préfères jouer un Counter Strike, t'as le droit quoi.
La musique classique, il y a toujours une question que je me pose aussi sur l'apprentissage de la musique. C'est pour me donner des excuses d'avoir abandonné. C'est cette espèce de froideur qu'il y a dans l'apprentissage de la musique quand on est enfant. On n'y va pas par la joie, on y va par les règles, il faut maîtriser des trucs avant d'avoir du plaisir.
Ouais, je pense que ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé le conservatoire en guitare classique, et puis c'était très rigide, c'est vrai, et c'est très académique, c'est pas très fun quoi. On nous disait vraiment il faut que tu apprennes d'abord à maîtriser ton instrument avant de pouvoir composer, de pouvoir
improviser, partir.
Ouais. Et ça c'était une frustration, et je vois aujourd'hui avec mais le conservatoire aussi, mais des écoles comme l'EJMA qui en fait mettent le fun avant tout et le plaisir quoi. Mmh. Et puis voilà, tu sais jouer deux accords mais tu peux quand même faire des concerts, et puis tu peux rejoindre des groupes, et ça je regrette un petit peu. Parce que c'est vrai que c'était pas toujours facile, et j'en ai eu marre des fois, et moi aussi j'avais envie d'aller jouer avec les copains plutôt que de faire mes gammes, mais je suis quand même reconnaissante d'être passée par là. Et puis maintenant la guitare c'est vraiment l'instrument central dans ma démarche, et c'est avec ça que je compose, et je suis contente de pouvoir bien le maîtriser.
Ouais. Il y en a pas mal derrière moi. Hein.
Oui, ouais. Elles sont pas toutes là, mais ouais.
Ah oui, elles sont pas toutes là, ok. Ouais. Elles sont derrière moi, je vais pas me tourner, mais il y en a 5-6 en tout cas.
Ouais, ouais. Il y en a 6 ici, et j'en ai encore 2-3 qui traînent.
Il y a un fétichisme, il y a celle des concerts, il y a celle de quand je travaille chez moi, il y a celle de quand je suis à l'extérieur.
Ouais, il y a un peu ça, puis elles ont toutes leurs sons différents, leur âme, et puis j'ai aussi toutes mes anciennes guitares en fait, je suis très attachée, j'aime bien les garder.
On ne jette pas.
Ouais.
Vous voulez écrire, enfin vous écrivez, hein, vous composez vos chansons, vous écrivez des textes par ailleurs, mais... j'ai lu ou entendu dans vos interviews que c'était pas votre idée première, la musique. Vous rêviez pas d'être chanteuse, quoi.
Non, pas du tout. C'est vrai, moi, j'écrivais plein d'histoires depuis toute petite, et je dessinais beaucoup. Je faisais plein de BD et des petits romans illustrés. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé. Et puis, alors que je faisais déjà de la guitare, mais il m'a fallu vraiment un bon moment pour comprendre qu'on pouvait tout mettre ça ensemble.
Un déclic.
Voilà, et qu'on pouvait raconter des histoires par la musique aussi. Ouais.
Bon, il y a cet album donc, qui est sorti il y a quelques mois, vous l'avez dit, hein, ça s'appelle « C'est demain que je meurs ».
Oui.
L'affiche est plus joyeuse que le titre. comment vous qualifiez votre musique ?
Alors c'est...
Quand je dis musique, pas seulement la musique, vos chansons quoi.
Bon, c'est toujours une question difficile, mais je pense que s'il faut mettre ça dans un tiroir, c'est vraiment de la folk pop. Donc comme on le disait avant, il y a beaucoup d'instrumentation et un aspect un peu orchestral parce qu'il y a... Voilà, il y a beaucoup d'instruments différents, avec la guitare qui est toujours au centre, plein de guitares et plein de voix aussi, parce que j'adore les harmonies et que la voix est très importante. Et puis, la mélodie aussi, très importante, le texte en français, toujours. Et puis cet album, c'est Demain que je meurs, c'est 10 chansons qui parlent de la fin des mondes. Donc il y a une chanson qui parle de la fin de notre monde physique, c'est aussi la fin de l'enfance, la fin de l'amour, c'est... chanson un peu sur la finitude des choses, mais surtout sur la renaissance.
Qui
c'est pour
après,
ça
ouais.
Voilà, que l'affiche est très colorée.
Il y a une floraison.
Voilà, c'est ça. Après le volcan et les incendies, il y a la terre qui est très fertile et ça laisse place à plein de choses.
Bon, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Ça aurait pu s'appeler C'est demain que je renais, par exemple.
C'est vrai. Je pense que je suis dans une période plutôt pessimiste. Je trouve que c'est très dur aujourd'hui d'avoir de l'espoir et d'être heureux, en fait. Je suis très angoissée. Je me fais beaucoup de soucis pour l'humanité et pour la planète. Et parce que je pense qu'aussi, que plus on est lucide et plus on est flippé par tout ce qui se passe. Et ça, c'est un peu dur de mettre du sens dans notre pratique quand on a l'impression que tout s'écroule autour de nous.
Il y a cette fameuse phrase d'Antonio Gramsci, hein, le philosophe communiste italien, qui disait il faut trouver devant la dureté et le pessimisme du constat, il faut trouver de l'optimisme dans l'action. Alors ça, c'est le credo des militants, par exemple, ouais. Quelle que soit leur cause. Composer, créer, pour vous, c'est une sorte de viatique, de médicament?
Ouais, alors personnellement, c'est sûr. Et puis, je pense aussi que j'aime bien la question de l'engagement et du militantisme, parce que je crois que de plus en plus, c'est ça que je perçois aussi dans la musique et dans la douceur et dans le fait de promouvoir et de mettre en avant des projets qui font du sens, qui mettent l'humain au centre, qui mettent le partage. Et puis, ouais, pour moi, c'est une forme de militantisme, en tout cas. De dire que, voilà, on essaie de créer des zones de calme, de doux, on peut dire
les choses. C'est un choix un peu radical dans le métier que vous avez choisi. Hein.
Ouais, c'est vrai. C'est la musique
c'est
que je fais.
C'est a priori difficile d'entrer dans les radios, difficile d'entrer dans les plateformes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Enfin, d'y être, c'est facile, mais d'y être algorithmiquement favorisé, j'imagine, c'est difficile.
Oui, c'est sûr, c'est une musique de niche. Hein. Ouais. On est loin des hits de énergie, mais c'est une musique qui fait du sens, et puis je pense qu'il y a un vrai public dont je fais partie aussi qui a besoin de ça. Et donc voilà, j'arrive à vivre de ma musique et à faire des concerts avec des salles pleines de gens qui ont du plaisir à écouter cette musique.
Bon, ça c'est l'aspect ensoleillé de cet entretien. On va commencer là-dessus, hein, la deuxième partie de cette émission. Cyrielle, on se retrouve dans un moment.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Fred Beltrando, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parle de votre livre, Le ruban de Sisyphe, livre aux références multiples, j'imagine, hein, parce que ce monde de la science-fiction n'est pas le mien. J'ai pas été un grand lecteur de science-fiction. Alors j'ai détecté Orwell. J'ai détecté aussi des films, hein, quand on voit le monde du travail dans ce premier monde que vous décrivez, qui est tout proche de nous.
Ah,
on peut imaginer Brasil, évidemment, de Terry Gilliams. Ouais. Certaines scènes de violence, on peut voir Orange Mécanique, Le Prix du Danger, Hunger Games
aussi, ouais, exactement.
Blade Runner avec des robots esclaves qui se rendent compte de leur esclavage et les Anonymous, etc. J'imagine qu'il y a plein d'Asimov,
parce que
il y a plein
la partie d'avant de l'interview, on a un peu philosophé sur le bouquin. Il faut dire aussi que c'est fun, sinon il n'y a personne qui va vouloir le lire.
Non, mais ça, alors, je m'excuse, on met en référence Brésil, ça va.
C'est moi qui fais trop l'intello, en fait, il faut que j'arrête.
Quand on met en référence Brésil, ça va.
Brésil, c'est cool.
Non, on sourit, mais on peut rire un peu jaune, parce qu'on Parce que souvent, on peut se dire qu'on y est déjà un petit peu, quoi, hein, dans les rapports humains, dans la façon, etc. Et puis après, alors, vous partez dans quelque chose de beaucoup plus philosophique, même si vous avez réfuté un peu le mot tout à l'heure, enfin, en tout cas, le terme de philosophe, laissons ça de côté, mais enfin, il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on a conscience de soi-même, de sa place dans le monde, de ce qui est acceptable ou inacceptable, et dans un schéma qui est horriblement figé. Hein. Ouais. C'est, finalement, je me suis dit en vous lisant, dans tous les systèmes, on arrive à un moment où on y est avec le capitalisme aujourd'hui. Ouais.